voulais vous faire entendre, comme vous l'adorez, Pierre-Édouard Sterrin. Et on se retrouve juste après ça.
Pour mieux arriver à la retourner, le Christ a dit « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». Et donc, pour agir efficacement, on ne peut pas ignorer les règles du jeu actuel, que ce soit économique, les sujets de pouvoir ou d'influence. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut les adopter aveuglément. Il faut donc utiliser les leviers, que ce soit l'argent, que ce soit le monde de l'entreprise, le secteur des médias ou les technologies, et sans se compromettre. Et je pense qu'il est évidemment possible de réussir avec éthique, d'entreprendre avec finalité, et d'investir avec une visée surnaturelle. Le combat n'est donc pas, selon moi, d'être contre le monde, mais dans le monde pour le transformer de l'intérieur.
Voilà pour ce point. Il y en a un second.
Et je pense qu'il y a trop qui se posent de questions sur l'après. Tu sais, on vit tous dans l'instant présent, on vit pour consommer encore plus. En Belgique, c'est encore plus vrai qu'en Belgique, en tout cas dans le petit coin dans lequel je vis en Belgique. Hein. Mes copains belges, leur seul sujet de préoccupation, c'est les vacances au Club Med, la voiture de sport et la prochaine maison ou je ne sais quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre finalité que ça. Et je trouve ça creux, je trouve ça vide. Et ils ne vivent que pour eux. Et j'ai été comme ça pendant très longtemps. Et maintenant, j'ai envie d'autre chose, quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus beau. Et donc, ce driver qui est demain, j'aspire à la sainteté, oui, demain, à la fin de mes jours, c'est un driver qui est juste gigantesque. Moi, depuis tout petit, je voulais devenir milliardaire. Voilà, c'était. Alors, je voulais devenir milliardaire, champion du monde de tennis, champion de jeux vidéo. Enfin, voilà, j'ai plein de rêves quand j'étais gamin. Il y en a un qui, au niveau professionnel, m'a suivi pendant des années, qui c'était cet objectif de gagner beaucoup d'argent un jour. Et puis, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à en avoir beaucoup sans avoir plus d'un milliard, je me suis finalement tout ça pourquoi. Et je me suis posé la question de mon utilité, entre guillemets, dans la société. Et je me suis dit qu'en fait, j'étais sur Terre, j'avais les talents qui étaient les miens. On a tous des talents, hein. Encore faut-il découvrir lesquels, mais les miens, c'est de faire de bien, c'est de gagner de l'argent. Et donc, il fallait que je trouve une utilité, une vocation à cette capacité à faire de l'argent. Et c'est là où est venue cette idée de se dire, bon, bah, très bien, Otium Capital demain, mon patrimoine, je vais le mettre au service de différentes causes. Donc ça, ça fait une dizaine d'années à peu près, une dizaine d'années que je suis sur ce schéma-là, à savoir, je continue à travailler beaucoup, à gagner de l'argent, pour ensuite pouvoir financer plein d'assos. Et maintenant, se pose la question de la suite. C'est-à-dire que la vache à lait, entre guillemets, Otium Capital, a été créée. Elle est capable d'alimenter financièrement le fonds de dotation du bien commun qui lui-même soutient de nombreuses associations et a vocation à monter. Et maintenant, à quoi je peux être utile?
Et si je reviens, mais pourquoi? Je veux dire...
Alors moi, il y a un driver très clair, c'est que quand je me suis posé des questions, j'ai aperçu la lumière un peu plus que je ne l'avais vue depuis que j'étais tout petit, donc la lumière, la foi, et je me suis dit, si je suis très très bon sur Terre, ma vie terrestre étant epsilonesque par rapport à ma vie de l'au-delà, si je suis très très bon sur Terre, très vertueux, ça me permettrait d'optimiser mes chances de devenir saint. Et tu vois, j'avais tapé sur Google comment devenir saint, j'ai essayé de lire des bouquins et tout, j'ai rien trouvé d'hyper concret. Mais non, donc de façon très intéressée, et ça c'est pas bien du tout, mais c'est pas grave, de façon très intéressée, je me dis qu'en étant bon sur Terre, ça me permettra d'aller vivre au paradis. Et donc c'est un vrai driver, ouais.
Ouais, c'est un vrai driver, voilà, la sainteté. Je prends la parole deux petites secondes. Premièrement, pour inviter les intervenants et intervenantes de la table ronde numéro 2 que Soraya va présenter, à venir s'installer. Et aussi pour vous rappeler que peut-être sur vos chaises, pas loin, il y a normalement des petits papiers avec des stylos. Et c'est si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur ces petits papiers. Il y a deux personnes qui sont en train de se signaler en faisant coucou. C'est les personnes qui vont venir récupérer les petits papiers à la fin des différentes tables rondes et on fera un système de questions-réponses à la toute fin. Et je pense que les intervenants des trois tables rondes seront ravis de discuter avec vous dans tous les cas. Après, il y en a qui viennent de loin. Voilà, donc les petits papiers et puis le début de la table ronde numéro 2.
Merci à toi. Mais quelle table ? Alors c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes nombreux, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que vous aurez moins de temps. Donc on va essayer, On va essayer de s'intéresser à ce que ce terrain tente de s'approprier, puisqu'il fait main basse sur beaucoup de choses, on l'a compris, la religion, l'école, les droits des femmes, la culture. Vous êtes là pour nous en parler. Nicolas, toi, tu fais partie du collectif. Bon, vous êtes dans une perspective anti-sioniste, anti-colonialiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre lutte à vous ?
Merci. Du coup, nous, Tzedek, on est un collectif juif décolonial qui lutte contre le racisme d'État en France, qui milite pour la fin de l'apartheid en Israël-Palestine, la fin du génocide et le démantèlement des institutions coloniales. Nous, on va vous parler là maintenant de la question en rapport avec Pierre-Édouard Sterrin, pardon, le projet Périclès et le lien avec la question du philosémitisme et aussi de la notion de la civilisation judéo-chrétienne qui est quand même souvent invoquée par l'extrême droite réactionnaire. Donc Pierre-Édouard Sterrin et son projet Périclès, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont assez représentatifs d'une tendance qu'on observe à l'extrême droite, qui est d'utiliser le christianisme comme un outil rhétorique pour servir un agenda qui va être réactionnaire. Dans le projet Périclès, par exemple, les valeurs chrétiennes, elles vont être assimilées à des valeurs qui vont être conservatrices. On va promouvoir la famille, le libéralisme économique, l'identité française et une anthropologie chrétienne. Et il va s'agir de combattre ce qui est désigné comme l'ennemi, c'est-à-dire le socialisme, le wokisme, l'islamisme ou l'immigration. Et en fait, cette imagerie chrétienne conservatrice va mobiliser le concept de la civilisation judéo-chrétienne, c'est-à-dire en fait l'union de la chrétienté et du judaïsme comme un socle civilisationnel de l'Occident. Et ces références, en fait, elles sont omniprésentes à l'extrême droite. Zemmour, il la cite dans son livre « La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien ». Netanyahou, il y fait référence après le 7 octobre pour justifier le massacre à Gaza. Et il s'agit, en fait, de défendre la civilisation judéo-chrétienne. On a aussi l'exemple du sénateur Leroux Dulier qui va proposer en 2023 un texte de loi au Sénat afin de consacrer les racines judéo-chrétiennes de la France. Donc en fait, de fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que cette notion, elle apparaît dans l'espace politique et pourquoi elle est autant mobilisée par l'extrême droite ? Selon l'historienne Sophie Bézis, dans son ouvrage « La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture », la notion de civilisation, en tout cas judéo-chrétienne, elle fait pas vraiment référence à une véritable occurrence historique. C'est un terme qui est à usage politique et qui s'impose uniquement en Occident, en fait, à partir des années 80. Et en fait, ce glissement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'opère dans le contexte d'une société post-Shoah. Avant, on va pas parler de civilisation judéo-chrétienne en Occident. Au contraire, en fait, les Juifs, ils sont victimes de persécutions à caractère racial. Enfin, je vous apprends rien. Ils vont être identifiés comme les autres. Ils sont souvent mal intégrés aux sociétés européennes et jusqu'à finalement aboutir à l'extermination nazie. Et en fait, c'est dans le contexte des années 60, notamment après l'épisode du procès Eichmann, que le judéocide, en fait, il va prendre une place centrale dans la mémoire collective européenne. Et ce phénomène, il va créer en quelque sorte une forme de crise morale pour l'Occident dans le processus de reconnaissance de la responsabilité des États européens. Et en fait, à partir des années 80, on commence à parler de civilisation judéo-chrétienne. Donc en fait, il s'agit pour l'Europe de se blanchir de son histoire et de sa participation au judéocide. Donc on peut dire que le concept de civilisation judéo-chrétienne, il n'est pas historiquement fondé, il n'a pas de fondement historique, voilà. Mais c'est une création politique, c'est un outil qui va servir à restaurer des valeurs morales occidentales, d'occulter les violences commises sur les Juives et les Juifs par les États européens, et par la création d'un mythe voilà, qui va blanchir des crimes racistes et aussi restaurer une forme de supériorité morale. L'utilisation de cette catégorie de civilisation judéo-chrétienne, elle sert essentiellement à l'extrême droite à réhabiliter l'Occident en ralliant en fait avec lui ses victimes d'hier, et ça participe à un phénomène qui va être globalement plus large, qui est caractéristique du rapport que l'Occident va entretenir avec les Juifs, qui est en fait le philosémitisme.
Et du coup, pour enchaîner, sous couvert de réconciliation et d'inclusion dans le mythe fondateur commun, l'Occident institutionnalise le philosémitisme pour donner un vernis moral à un ordre qui reste raciste, colonial et impérialiste. Chez Tzedek, on mobilise régulièrement la catégorie de philosémitisme. C'est une autre forme d'altérisation des juifs, inverse à celle de l'antisémitisme traditionnel. Là où l'antisémite crée un juif menaçant, le philosémite, lui, crée un juif qu'il peut aimer. Un juif modèle, compatible avec ses propres valeurs. Mais au fond, c'est la même logique, celle qui décide qui a le droit d'exister et à quelles conditions. Le philosémitisme, donc pour nous, c'est une forme d'antisémitisme. Comme un homme qui valoriserait une femme uniquement parce qu'elle correspond aux normes patriarcales ne fait que perpétuer un système de domination, même s'il le fait avec des compliments. Avant la Seconde Guerre mondiale, cette attitude était donc marginale, mais après 1945, elle devient la manière principale pour l'État français d'aborder la question juive. Et cela a deux effets majeurs. D'abord, de séparer les juifs des autres victimes du racisme et de l'impérialisme. On les arrache aux solidarités naturelles qu'ils et elles devraient avoir avec les autres minorités. Et à l'échelle internationale, la création d'Israël comme État juif, présentée comme une réparation, a aussi servi à séparer les juifs du reste du monde, en particulier du monde arabe. Cela les a exposés au ressentiment populaire, aux ruptures et parfois même à l'exil. Ces États-nations européens portent une responsabilité immense. Ce sont eux qui ont détruit nos histoires, nos cultures, nos communautés juives. Et aujourd'hui, ces mêmes États se présentent comme nos protecteurs. Ils utilisent la mémoire de la Shoah comme alibi moral pour leur politique sécuritaire et pour leur islamophobie d'État. Le philosémitisme permet aussi aux forces politiques historiquement antisémites de s'absoudre de leur sort vis-à-vis des Juifs. L'État français se pose en défenseur de notre communauté pour mieux masquer ses responsabilités dans la production du racisme. Et dans le même temps, on invente cette idée de civilisation judéo-chrétienne. Une idée absurde quand on se souvient que c'est l'Occident lui-même qui a persécuté les Juifs pendant des siècles. Aujourd'hui, on les rallie à l'Occident contre un ennemi désigné, du coup le monde musulman. Le soutien inconditionnel à Israël sert alors de preuve morale. Pour la droite et l'extrême droite, c'est une manière de dire « Regardez, on n'est plus antisémite, on défend Israël ». Mais en réalité, c'est un test de respectabilité réactionnaire. Et ce discours, il a ses parrains, ses mécènes, ses financeurs. Des milliardaires d'extrême droite comme Vincent Bolloré, comme Pierre-Édouard Sterrin, qui se présentent comme les gardiens de la civilisation chrétienne. Ils inondent les médias réactionnaires de sermons sur la foi, la famille, la morale, mais ce qu'ils défendent, c'est en aucun cas de nature spirituelle. C'est le capital, la domination, les politiques racistes et le fascisme d'État. Leur civilisation judéo-chrétienne, c'est une marque, c'est un produit idéologique, un vernis religieux posé sur le racisme, le suprémacisme et la guerre culturelle. Une croisade médiatique contre les pauvres, contre les racisés, contre les femmes et contre toute forme d'émancipation. C'est pour ça que nous, en tant que juifs, on se doit de parler autrement. Refuser qu'on oppose les mémoires, refuser qu'on nous instrumentalise et qu'on nous blanchisse pour mieux acculer les populations musulmanes. Être juif aujourd'hui et le rester, c'est se heurter au mur de l'identité blanche des États-nations européens. Alors oui, brisons ces murs, refusons cette imposture et retrouvons la possibilité d'une parole juive, libre, solidaire, antiraciste et décoloniale.
Merci. Merci à vous. Yola, on te retrouve, je suis ravie. On l'a dit brièvement, mais effectivement, le collectif Nous Tous a lutté contre la publication par les presses universitaires de France d'un ouvrage extrêmement réactionnaire. Et puis, toi, dans ton, à ton niveau plus local, tu as pu voir comment Pierre-Édouard Sterrin a financé une asso anti-IVG. Est-ce que tu peux nous raconter ces luttes ?
Ouais, je vais vous raconter tout ça. Alors, en fait, leur enjeu, c'est d'instrumentaliser les luttes à des fins populistes et racistes, ce qui traduit assez bien, en fait, une volonté de récupération chronique des souffrances par l'extrême droite et la normalisation des discours de haine dans la société en général. Cette stratégie, elle est incarnée en particulier par Pierre-Édouard Sterrin, mécène autoproclamé, vous l'avez dit, du bien commun, créateur du fonds du même nom et financeur d'écoles catholiques intégristes, de médias conservateurs et de fondations qui rêvent d'une France d'avant, avant la recherche d'égalité, avant la liberté de disposer de son corps, avant la mise en cause du rôle de l'homme blanc cis dans la société. Son nouveau jouet politique, vous l'avez détaillé, c'est le plan Périclès, un réseau qui mêle entrepreneurs, intellectuels et influenceurs identitaires, une droite chic, tout sourire, mais nourri au racisme, à la nostalgie du chef et de la cellule familiale. En avril 2025, ces réseaux ont accouché d'un livre dont le titre est « Face à l'obscurantisme woke », publié aux presses universitaires de France, les éditions PEUF. Officiellement, c'est une défense de la liberté intellectuelle. En réalité, c'est une opération d'influence financée par le Fonds du bien commun, parce que près de la moitié des auteurs viennent de structures que Sterrin soutient directement. L'ouvrage aligne 30 contributeurs obsédés par le mot woke, qui confondent justice sociale et censure, qui se plaignent qu'on leur demande simplement de réfléchir avant de parler et d'inclure à leur réflexion la parole des concernés. Mais au printemps, petit coup de chaud chez les puffs, le livre a failli ne pas sortir. Officiellement, les conditions nécessaires à un accueil serein de ce livre collectif n'étaient plus réunies. En langage courant, les puffs ont senti que publier un manifeste sponsorisé par le mécène le plus rétrograde du pays pouvait potentiellement sentir le soufre. Mais les affaires reprennent vite, c'est la loi du marché. Quelques semaines plus tard, le livre paraît quand même, le 30 avril 2025. Des militantes féministes ont décidé de dénoncer ce scandale en redécorant les vitrines et les trottoirs des puffs à l'aube de ce matin de printemps, parce qu'on ne tolérera jamais que ce soit normalisé de promotionner un pavé anti-woke motorisé à la haine. L'espace public ne leur appartient pas et la tranquillité n'est pas un dû. L'Empire Stérin s'arrête pas aux vitrines parisiennes. Effectivement, les réseaux s'infiltrent dans les écoles sous couvert d'aide à la parentalité. Le 30 juin 2025, Mediapart a révélé qu'à Fontenay-aux-Roses, donc juste à côté du CL Châtillon dont je fais partie, un temps sur l'hygiène de vie des adolescents a été organisé dans un collège public en partenariat avec le Réseau des Parents, une asso financée par le Fonds du bien commun de Pierre-Édouard Stérin. L'atelier diffusait des messages anti-IVG, culpabilisants et religieux. Autrement dit, une intrusion idéologique dans un espace public censé protéger les enfants et les familles. C'est comme ça qu'on repolitise les ventres et qu'on recolonise les consciences. Face à ça, nous toutes Châtillon a décidé d'agir. Nous écrivons à l'ensemble des proviseurs et directeurs des lycées du 92 pour les informer et rappeler un principe simple. L'école publique n'est pas un terrain d'expérimentation morale pour milliardaires réactionnaires. Ces deux affaires, la parution du livre et l'atelier de Fontenay, ont un point commun, c'est évidemment la stratégie d'influence. C'est un système d'entrisme culturel soutenu par un pouvoir complaisant, un gouvernement qui promeut les militantes de Némésis, par exemple, qui tolère les propos racistes et islamophobes de Rotaillot et réprime violemment nos manifestations contre les violences de genre en voulant nous imposer de marcher avec les FAF. Cette convergence entre capitaux privés, idéologie religieuse et relâchement étatique dessine une véritable fascisation du champ public. Ce climat n'a rien d'accidentel et le plan Périclès en est une illustration parfaite. Derrière ces grands mots, réarmement moral, renaissance spirituelle, liberté académique, on retrouve la même logique, faire du corps et de la sexualité des champs de bataille idéologiques. Une révolution culturelle de droite, comme ils disent. En clair, une entreprise de reconquête patriarcale. Le féminisme dans ce programme devient une cible à abattre. On nous accuse d'avoir fracturé la société et détruit la famille. À toutes les mères isolées qui nous écoutent, on vous envoie de la force. Ce réseau fonctionne comme une plateforme, on y trouve des sessions de réflexion ultra-conservatrices, des intellectuels racistes, misogynes et décomplexés, des influenceurs identitaires et des entrepreneurs du sens, du bon sens. Mais vu de notre côté, ça ressemble à un projet d'infantilisation collective cherchant à dicter une morale unique sur fond de tradition blanche et coloniale, où le féminin redevient l'alibi du contrôle, contrôler les naissances, contrôler les tenues, les manières, les savoirs. Autant dire que pour nous toutes, le plan Périclès n'est pas une curiosité politique, c'est une menace structurelle. Et c'est pas qu'une question de théorie. Et ceux se sentant investis d'une mission divine de recadrage sociétal sont nombreux. Chaque hiver, des militants défilent pour sacraliser nos utérus et interdire l'IVG. Et dans un souci d'optimisation des luttes, je suppose, réclament aussi justice pour le roi, tant qu'on y est, mémoire sélective ou masochisme historique, je vous laisserai en juger. Dans un souci de rappeler que c'est pas anodin de porter de telles idées parce qu'elles exercent une violence immédiate et une mise en danger de la santé, des militants sont allés perturber leurs manifestations, encore une fois, habillés en servante écarlate, une comparaison qui nous a paru tout à fait appropriée. On veut pas d'un pays où les milliardaires financent la morale pendant que l'État ferme les yeux. On veut un pays où l'école, les corps et les idées restent des espaces de liberté. Alors non, on ne débattra pas pour savoir si l'égalité va trop loin. On préfère la faire avancer pendant qu'ils s'écoutent parler. Aucun braquage rhétorique ne nous fera admettre que le bien commun leur appartient. Nous lutterons autant de fois qu'il le faudra encore. Et pour cela, nous aurons besoin de vous tous. Le 22 novembre aura lieu la manifestation de lutte contre les violences de genre. Cet événement est menacé par la présence de groupes d'extrême droite protégés par la police. Venez résister à nos côtés. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous, s'il vous plaît.
Bravo. Merci, Julia. Je vais me tourner vers toi, Marielle. On a vu pour la reconquête patriarcale, il y a aussi une mainmise ou en tout cas une espèce de tentation d'imposer un regard, un discours sur les religions. Enfin, on a entendu ce qu'on disait les camarades de Tzedek, mais toi, Marielle, tu es la présidente nationale de la jeunesse ouvrière chrétienne. Stérin clairement instrumentalise la religion. Comment est-ce que vous y répondez ?
Alors, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Déjà, si on a souhaité être présent à ces tables rondes, c'est parce qu'on refuse la montée de l'extrême droite, évidemment, et la récupération de l'Église pour justifier des discours de haine, d'exclusion et de fermeture. Alors pour nous, c'est essentiel de dire haut et fort que le message de l'Évangile, il n'a rien à voir avec ces idéologies. Jésus n'a pas prêché la peur de l'autre, mais bien l'amour du prochain. Et c'est cette conviction qui nous pousse à agir, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens. Alors la JOC, c'est une association d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on se forme entre nous, on s'entraide pour comprendre le monde, la société, pour pouvoir les transformer. Alors on part de notre expérience quotidienne, on part de nos boulots, de nos travails, de nos emplois, de notre vie de quartier et des inégalités qui nous touchent en tant que jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires. Et à partir de ça, on analyse, on se forme entre nous, on prend position et on agit. Alors concrètement, en tant que mouvement national, on produit et on diffuse des supports de réflexion et de formation qui nous permettent de nous forger nos propres convictions. Donc par exemple, on est partenaire avec le livre « En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite » de Vincent Hédin, qui est paru aux éditions de l'Atelier. Alors c'est un outil qui est très, très très bien fait, qui nous aide à démonter les idées fausses et qui remet en question certains discours qui opposent les gens. Donc je vous invite à aller le regarder et en discuter à notre stand juste après. On a aussi cette année une priorité de formation sur l'esprit critique. L'objectif, c'est d'apprendre à aiguiser notre regard de jeunes sur ce qu'on entend dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les discours politiques. Parce que les fake news, les manipulations, les peurs instrumentalisées, ça se combat avec des connaissances et de la lucidité. Et donc, ça nous paraissait important pour nous de nous former sur l'esprit critique. Et aussi, après les élections européennes de 2024, on a publié une parole du mouvement qui s'intitule « Faisons barrage à l'extrême droite ». Où on y affirmait clairement que les valeurs chrétiennes ne peuvent pas être détournées pour servir des projets d'exclusion ou de domination. Alors nous, ce qu'on défend, c'est la doctrine sociale de l'Église, dont on parlait tout à l'heure. C'est une tradition qui remonte à Léon XIII, le pape, qui parlait de justice sociale, de dignité du travailleur et de solidarité. Le pape François aussi a repris ce souffle-là, et il rappelle que l'Évangile nous appelle à défendre les pauvres, la planète, la paix et la fraternité. Et cette vision-là du christianisme comporte, une foi engagée, tournée vers l'humain et vers la transformation sociale. Alors oui, nous sommes chrétiens et nous refusons qu'on se serve de notre foi pour légitimer des idéologies de repli, d'égoïsme et de haine. Notre foi, elle nous pousse au contraire à ouvrir les portes, à écouter, à accueillir et à construire ensemble. Alors pour nous, lutter contre l'extrême droite et ce terrain, c'est pas seulement une question politique, c'est une question de dignité humaine et de fidélité à l'Évangile. C'est refuser qu'on oppose les gens entre eux. C'est croire qu'un autre monde est possible, fondé sur la solidarité, la justice et la fraternité. En résumé, on veut une église en sortie, comme le disait le pape François. Une église ouverte sur le monde, présente dans les luttes sociales, au service des plus fragiles, porteuse d'espérance. Mais surtout une église qui ne se laisse jamais instrumentaliser par ceux qui prêchent la peur au lieu de l'amour. Alors voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est pour témoigner, résister et construire avec d'autres jeunes et d'autres mouvements un monde plus juste, plus fraternel et plus humain.
Merci Marielle. Et justement, il y a un collectif religieux antifasciste qui est présent avec nous. Anne, tu le représentes. Vous êtes à l'origine le collectif de l'appel Justice Espérance, chrétien contre l'extrême droite, qui a rassemblé une large interorga chrétienne lors des dernières élections. Pierre-Édouard Sterrin, il a une façon très particulière de concevoir le catholicisme. Comment est-ce que vous luttez contre la récupération de la religion ?
Merci. Ouais. Donc, je m'appelle Anne. Je fais partie du collectif Anastasis, qui est un collectif chrétien antifasciste et anticapitaliste, qui a été monté il y a 4 ans à peu près et qui vraiment, pour but principal de lutter contre l'instrumentalisation. Identitaire et fasciste en fait du christianisme, c'est un peu notre combat principal. Comme tu le disais, on a organisé au moment de la dissolution en 2024, on a monté une interorga chrétienne pour à la fois organiser un grand meeting de chrétiens et chrétiennes contre l'extrême droite et aussi une tribune qui a été signée par 10 000 chrétiens Voilà, avec des assos comme la CIMAD, comme le MRJC, qui est un mouvement aussi d'action catholique qui est porté par des ruraux, comme Lutter contre l'oppression, qui est aussi un mouvement qui est né un peu dans la période, qui est des chrétiens écolos. Mais voilà, d'autres assos aussi. Aussi avec l'Église protestante Unie de France, qui est un peu une des grosses églises protestantes, qui a pris pour le coup position contre l'extrême droite de façon officielle et institutionnelle. Nous, malheureusement, l'Église catholique, on n'a pas ces résultats-là, parce que, enfin, moi je dis ça parce que je suis de tradition catholique. On est, enfin, il y a des protestants aussi dans notre collectif et des gens qui sont de tradition. De tradition orthodoxe, mais moi je fais partie de l'Église catholique et on essaye aussi de lutter au sein de l'Église catholique pour que les catholiques se positionnent, ce qui a été le cas en fait par le passé. Elle a eu un positionnement par le passé contre l'extrême droite, mais aujourd'hui malheureusement c'est pas le cas et ça fait un peu partie des questions qui nous préoccupent, c'est-à-dire que ce terrain il surgit aussi dans un contexte où le catholicisme et le christianisme en France en fait se fascisent et se droitisent, et aussi que un sorte de ventre mou un peu conservateur qui était plutôt de la droite conservatrice va en fait est passé à l'extrême droite, notamment avec Zemmour, qui a un peu levé en fait ce verrou-là au sein du christianisme. Donc il y a vraiment ce, enfin on essaye voilà de lutter contre ce glissement et on essaye aussi de lutter contre le fascisme en fait à partir de la théologie. C'est assez original, mais c'est un peu l'angle de notre collectif, c'est-à-dire que on pense que en travaillant la théologie, en travaillant les traditions chrétiennes, on peut en fait porter un discours qui soit émancipateur, qui soit antifasciste, qui soit anticapitaliste et qui soit aussi positivement en lutte pour en fait une société anarcho-communiste. Et ça c'est des trucs qu'on trouve et dans la théologie et dans les textes en fait de la Bible, et donc c'est un peu ça notre combat. Et notamment de lutter contre cette idée de civilisation chrétienne ou civilisation judéo-chrétienne, comme disaient les camarades de Tzedek, qui vont complètement aussi instrumentaliser le judaïsme là-dedans, alors que pendant longtemps en fait l'Église catholique a été porteuse d'un anti-judaïsme et d'un antisémitisme, donc il y a quelque chose de complètement instrumental là-dedans. Mais du coup, voilà, ce qu'on essaye de montrer aussi, c'est que dans les évangiles, dans la figure du Christ, notamment, en fait, le Christ ne cesse de lutter en fait contre le repli identitaire, contre en fait cette sorte de clôture nationale. Enfin, c'est vraiment un mouvement qui est très très fort dans la Bible, mais depuis aussi l'Ancien Testament. Enfin, il y a des textes en fait qui portent vraiment. Enfin, je dis l'Ancien Testament, c'est d'un point de vue chrétien, mais des textes en tout cas dans la Bible qui portent très fort en fait cette lutte contre la clôture nationale. Notamment un texte qui a été beaucoup repris par l'extrême droite, notamment par Dee Dee Vance aux États-Unis, mais aussi Le Pen avait repris cette idée-là de dire « Ah, en fait, en tant que chrétien, on doit d'abord lutter pour aider les prochains. » Et en fait, ils ont instrumentalisé comme si c'était en cercle concentrique, que c'était d'abord la famille, ensuite nos communautés, la patrie, etc. Alors qu'en fait, si on regarde le texte de la Bible, il dit exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» Donc il est un peu préoccupé par cette même un peu question identitaire, en fait, de « Est-ce que je dois aider en proximité les gens qui sont comme moi ?» Et en fait, Jésus commence à raconter une histoire où il raconte qu'il y a quelqu'un qui est laissé pour mort sur le bord du chemin, et il y a des chefs religieux qui passent, et en fait, ils s'en foutent de lui. Mais il y a une troisième personne qui passe, qui est en fait une personne étrangère, qui est une personne non-juive, samaritaine, qui est considérée comme impure, qui va en fait s'occuper de cette personne-là. Et en gros, Jésus du coup demande au gars qui s'est fait le prochain de l'autre. Donc en fait, il opère un double retournement, parce que la question c'est pas qui je dois aider en premier, mais en fait moi à quelle cause je me rends sensible, et est-ce que j'arrive à me rendre sensible en fait à toutes les personnes en souffrance, et y compris celles qui sont le plus éloignées de moi, mais aussi que dans la parabole en fait c'est la personne étrangère qui vient en fait sauver. Donc c'est vraiment un sorte de retournement, mais en tout cas il y a des appels répétés, enfin c'est un exemple parmi d'autres, mais des appels répétés dans la Bible pour sortir de cette idée de la clôture nationale et aussi de la séparation entre ceux qui seraient purs aux yeux de la société. En fait Jésus il passe son temps à traîner avec des personnes qui sont considérées comme impures aux yeux de la société, que ça soit des personnes lépreuses, des personnes prostituées, enfin vraiment en fait il traîne que avec des TDS et des personnes étrangères en fait Jésus. Donc voilà, nous on essaye de travailler sur les textes et de travailler sur la théologie pour montrer en fait ça, et porter une théologie aussi
non seulement pour les chrétiens, parce qu'en fait, il y a ce truc-là qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont un peu une sorte de ventre mou, de droite conservatrice, et qui sont tentés par l'extrême droite et par les discours de Sterrin et Bolloré, notamment, bah, parce qu'ils ont une énorme force de frappe, etc. Mais en fait, si on arrive aussi, je pense que c'est aussi des gens à qui on peut parler à partir de la foi, en montrant que, bah, en fait, Jésus, il combat le pouvoir de l'argent, il combat le racisme, etc., et qu'en fait, ça peut les... Enfin, il y a aussi un enjeu pour nous à convaincre ces gens-là, et notamment dans toutes les associations qui sont financées par Sterrin et par la Nuit du Bien Commun. Bah, en fait, il y en a qui sont réactionnaires, mais il y en a qui sont en fait des assos un peu d'action sociale chrétienne, et qui se font aussi récupérer par l'argent de Sterrin, et qui n'ont pas forcément en fait une théologie politique hyper réactionnaire. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu en fait d'aller leur parler, d'aller les conscientiser en fait sur ce que représente Sterrin, sur ce que représente cette théologie fasciste en fait, et de montrer qu'on peut combattre aussi depuis le terrain un peu des idées depuis le christianisme. Voilà. Je vais m'arrêter là, comme ça, ça sera pas trop long.
Merci Anne. Ou utilisation de la religion, un autre angle pour Sterrin, c'est les écoles, et notamment en zone rurale. Il y a, on peut se poser la question de la stratégie développée par l'extrême droite, et comment les collectifs citoyens ont pu répondre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Eh bien, on va en parler avec toi, Chloé, puisque tu es membre de Morvan Mobilisation Solidaire, en lutte contre Excellence Ruralité, et puis l'arrivée d'un collège privé hors contrat dans une ville de petite taille, avec déjà pas mal d'établissements scolaires. Et donc, c'est là que ce projet s'est implanté. Raconte-nous un peu.
Oui, tout à fait. Donc, pour revenir sur le collectif que je représente, Morvan Mobilisation Solidaire. Donc, le Morvan, pour ceux qui ne situent pas, c'est le fin fond de la Bourgogne. Donc, en gros, là, dans la pièce, il y a toute la population de chez nous. C'est un petit peu impressionnant. à la base, collectif citoyen, pas forcément très formel, de citoyens d'origine un peu diverses qui se sont regroupés après les européennes et au moment des législatives 2024, comme beaucoup, pour essayer de faire face à la progression de l'extrême droite avec des enjeux un petit peu particuliers dans nos zones rurales. Collectif qui s'est rapidement remobilisé quand au début de l'année 2025, on a vu arriver ce projet dans le journal local, hein, Excellence Ruralité ouvre un collège à Étang-sur-Arroux. Présenté vraiment comme un collège financé par des mécènes qui était là pour lutter contre le décrochage scolaire des zones rurales qui sont délaissées par l'État, dans lesquelles il y a des élèves, des enfants qui se retrouvent en difficulté, qui n'ont pas les mêmes chances que les autres, etc. Donc vraiment, déjà de base, le mensonge à manipulation, cette avancée masquée qui fait vraiment l'identité de la nébuleuse ce terrain. Mais en fait, étant un petit peu sensibilisé, il y a rapidement des éléments de langage qui nous ont fait tiquer. Ils défendaient l'enracinement des élèves dans leur territoire, une pédagogie fondée sur l'idéologie grecque et chrétienne. Voilà, donc on a commencé à creuser un petit peu. On s'est rapidement rendu compte de tout ce qui pouvait tourner autour d'Excellence Ruralité, de cette nébuleuse qui est très bien décrite sur toutes les cartographies qu'on peut voir passer du système Sterrain. Et donc le lien très très proche avec Nuit du bien commun et Fonds du bien commun. Et on s'est aussi rendu compte que finalement on était les premiers à se mobiliser contre Excellence Ruralité, qui jusque-là avait déjà ouvert deux établissements sans rencontrer absolument aucune opposition ni question des secteurs où ils s'étaient implantés. Et on s'est même demandé ce qu'ils venaient faire chez nous finalement, parce que là où ils s'étaient implantés avant, on était vraiment sur des secteurs où il y avait eu par exemple fermeture de classe, voire fermeture d'école vraiment concrète. Et ils arrivaient voilà un petit peu en sauveur en disant bah, nous on va offrir une chance à vos enfants d'avoir encore un établissement d'éducation. Et en fait, il est très très probable qu'ils se soient implantés chez nous parce que malheureusement le Morvan a plein d'atouts, mais aussi un terrain en fait de catholique identitaire déjà bien ancré, avec notamment l'arrivée de la communauté de l'Emmanuel dont vous avez peut-être récemment entendu parler, parce que en fait les gars sont tellement intégristes qu'ils ont été mis sous tutelle par le Vatican pour abus. Donc on a commencé notre lutte, on a très très rapidement eu le soutien de tous les secteurs, réseaux, syndicats de défense de l'éducation et de l'enseignement public, et puis rapidement fait écho parmi tout collectif, parti, syndicat, anti-extrême droite. Notre travail a été après sur énormément d'informations au public sur le travail d'enquête qu'on avait pu commencer sur qui se cache finalement derrière le cours Vauban. Après, notre stratégie a été un peu affinée sur vraiment cet enjeu de l'éducation dans nos zones rurales, mais pas que, puisque Excellence Ruralité, en fait, la plupart des membres avaient fait leurs premières armes avec Espérance Banlieue, dont vous avez aussi entendu parler. Ils vont exploiter les failles, ils vont exploiter la vulnérabilisation, ici notamment dans le secteur de l'éducation. Et puis on a aussi pu agir, et finalement c'est ce qui a été pour l'instant le plus efficace sur un volet environnement, puisqu'en fait pas de bol, ils ont décidé de construire sur une zone humide, et là encore on a pu mobiliser nos réseaux, notamment France Nature Environnement qui a répondu présent pour nous aider à au moins retarder leur projet. Et aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas encore terminé, puisque pour l'instant ils n'ont pas du tout répondu aux obligations qu'on leur demandait de préserver de cette zone humide, et on a peut-être encore une chance de les contrer. Clairement, les difficultés, par contre, auxquelles on a dû faire face, c'est à minima l'inertie, si ce n'est la complicité des responsables administratifs et politiques qui auraient dû être là pour défendre l'éducation publique et la démocratie en République, que ce soit rectorat, préfecture, mairie. On a vraiment fait face, comme tout le monde, au ventre mou, à une absence de décision. Mais voilà, tout n'est pas terminé. C'est pas terminé chez nous, c'est pas terminé ailleurs. Et puis, on est ici pour mutualiser notre lutte avec les vôtres et prendre des forces et des outils et de l'information pour continuer. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Chloé. On retient quand même que la lutte paie toujours. On voit aussi dans ce que tu décris que quelque part, ce terrain, il profite, et ces espèces de super influenceurs d'extrême droite, du fait que l'État soit moins présent ou qu'il y ait des difficultés, de la désertification, du fait que tel quartier ou telle ville soit moins dotée. En fait, c'est comme s'il y avait des opportunités pour eux. Et ça fait, ça fait penser aussi à ce qui se passe dans l'Allier, où là, il est question de culture, mais aussi d'écoles privées sous contrat et également de financement public avec la bénédiction du maire local. Et nous avons Vincent Présumé du SNES FSU qui nous a écrit une contribution, un témoignage qui va vous être lu par Marion des Soulèvements de la Terre. Merci à elle.
Oui, bonsoir. Vincent Présumé est un professeur d'histoire-géographie qui fait l'objet de menaces de mort de la part de l'extrême droite pour le combat qu'il est en train de mener à Moulins contre un spectacle qui s'appelle « Les murmures de la cité ». Alors, je vous lis son texte. « La galerie Terrain est maintenant un phénomène connu, mais on découvre encore des ramifications. L'Allier est un cas d'école qui ne rentre pas complètement dans le schéma habituel, car là, ce sont directement des associations contrôlées par Terrain qui montent des fêtes populaires et des écoles privées hors contrat. » Murmure de la Cité est une association et un spectacle dit immersif, financé en partie par Sterrin et en partie par des fonds publics. Le personnage clé dans l'octroi des fonds publics est le maire LR de Moulins, Pierre-André Périssol. Par ailleurs, en attente d'un verdict le 14 janvier prochain, dans une affaire de prise illégale d'intérêt. Et son financement par Sterrin a été repéré par le député de Moulins, Yannick Monet. Le contenu du spectacle a fait l'objet d'une alerte par la FSU de l'Allier. Il s'agit de la France éternelle, guidée par la divine providence, repoussant encore et toujours les envahisseurs. La formation sur Moulins d'un collectif laïque et républicain s'opposant aux subventions publiques à ce spectacle a suscité dès le mois de juin une violente campagne nationale et mensongère de la part de la totalité des médias Bolloré, de CNews au JDD, jointe par le Figaro. Les méthodes sont caractéristiques. D'abord, la victimisation. Ils veulent faire croire qu'on voudrait les interdire et même les attaquer. Ensuite, les fake news. Le député de Moulins ramperait dans les buissons pour espionner les répétitions. Enfin, les menaces et la préparation à la violence. Des sites d'extrême droite comme Riposte Laïque, en relation indébutable avec des responsables locaux de Murmure, de Reconquête et de LR, ont engagé une campagne de diffamation avec menace de mort contre moi-même et contre le secrétaire de l'UDCGT, Laurent Indruziak. Les cibles de leur haine sont les syndicats, la presse indépendante locale, même de droite, les milieux culturels et artistiques. Il est vite apparu que Guillaume Séné, le chef de Murmure de la Cité, est aussi le chef d'un club, Sophiapolis, qui organise des sortes de séminaires visant à unifier catho-tradis et néo-païens sur des bases racialistes que résume l'invocation permanente de l'enracinement. Le spectacle, soi-disant apolitique, a pour finalité cet enracinement qui n'a rien de traditionnel et doit tout au néo-fascisme promu au-delà de ce terrain par les Peter Thiel et autres Jed Evans aux États-Unis et par Douguin en Russie. La cité qui murmure n'est autre que Sophiapolis. L'opération ainsi montée devait financer l'ouverture d'une école privée hors contrat, à Moulins, à la rentrée. C'est le cours Zita. Zita, c'est le nom d'une princesse de Habsbourg. Si les communiqués puérils et délirants de Guillaume Senet ne cessent de dire « on a gagné, nos adversaires qui veulent détruire la France sont à terre », le vrai bilan politique de cette opération a été tiré, fin juillet, par Jean-Yves Le Gallou, vieux théoricien racialiste de l'Union des droites. Il ne prétend pas, lui, avoir gagné la guerre culturelle. Et en effet, la résistance a progressé. Un collectif d'archéologues et d'historiens a engagé une campagne d'éducation populaire, une manifestation à dominante syndicale a défié le spectacle, et le cours Zita n'a pas pu ouvrir. Mais Le Gallou revendique à juste titre, malheureusement, une victoire politique. Elle est incarnée par l'Union des droites, par l'alignement affiché ou lâche de toute la droite locale et même d'une partie du centre sur le financement public et le soutien à ce spectacle. Ils entendent bien continuer. Dans une vidéo récente, Guillaume Senet exige le maintien pour l'année prochaine de toutes les aides et des financements publics et exige aussi que toutes les critiques soient réduites au silence. Ils misent sur l'arrivée au pouvoir de leurs amis pour le faire. De notre côté, le collectif continue et exige d'être reçu par le maire de Moulins. Mais surtout, je dois dire que si le fait d'être menacé n'a rien d'agréable, cette affaire m'a conduit à être invité par d'autres collectifs. Collectif antifasciste de la Creuse, Réunion unitaire sur le fascisme à Nevers, Collectif Morvan solidaire à Autun, Amicale solidaire des écoles publiques rurales. Et dans ces rencontres se dessine clairement un axe de la résistance. Géographiquement, Moulins correspond aux régions de bocage du nord du Massif central et du centre de la France. Ce que certains ont appelé la diagonale du vide. En réalité, c'est le désert des services publics, si les gouvernements successifs continuent à les fermer. Ce furent des zones de rond-point à Gilets jaunes. Le RN fait des cartons électoraux dans ces communes. Et nous commençons à y tisser la diagonale de la résistance et de la contre-attaque culturelle et politique.
Merci. Merci Marion. Tisser, c'est donc tout l'enjeu. Tisser, c'est coopérer, c'est être ensemble. Et justement, avec nous également ce soir, les camarades du collectif Lutte Locale Centre, donc Stéphanie, Lydie et Catherine. Et alors vous avez été des sortes de lanceurs d'alerte sur l'arrivée de ce terrain en Sologne.
Merci pour cette invitation. Donc oui, effectivement, nous, on est une coopération en fait de lutte locale. On s'entraide habituellement pour nous opposer et contester l'implantation des plateformes logistiques, l'extension des golfs d'ultra-riches, parce qu'en fait, nous venons de la région centre. Il y a le département principal, en fait, sur lequel duquel on va parler aujourd'hui, ça va être le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher, en grande partie, est composé de la Sologne. À force de lutter contre des plateformes logistiques, à force de lutter contre tout un tas de choses et l'accaparement, en fait, du foncier dans notre territoire, on s'était dit qu'on avait plutôt envie de changer de mode opératoire et de proposer quelque chose de constructif. Et ça passait par, pour nous, l'écriture d'un manifeste pour la Sologne. Et on a lancé l'appel à l'écriture du manifeste pour la Sologne en mois d'avril 2025 devant le domaine de Chalès parce que nous avions appris quelques mois plus tôt que Pierre-Édouard Stérin allait ouvrir l'Académie Saint-Louis dans cet endroit-là, en plein milieu de la Sologne, qui est le centre de la région centre et le centre normalement de la France, et on s'est dit c'est quand même un peu bizarre d'être aussi centré. Voilà, donc on voulait le montrer aussi parce qu'en fait finalement les habitants et les habitantes de la Sologne et de la région ignoraient en fait l'ouverture de cette académie. Ce qu'on peut vous dire, c'est que quand on a fait le lancement de ce manifeste, en fait, on a fait un appel en même temps et on a rassemblé plusieurs collectifs, plusieurs associations et plusieurs partis, donc les écolos, LFI, la FSU, on a rassemblé aussi la CGT, enfin voilà, plusieurs personnes, plusieurs collectifs sont venus avec nous ce jour-là pour dire non à l'ouverture en fait de l'Académie Saint-Louis. Et on a décidé finalement ensemble de constituer une sorte de collectif d'alerte, de lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que de là où on était, puisqu'en fait ce terrain avançait tout en caché, de là où on était, différents horizons, on avait besoin en fait d'échanger et de partager en fait nos informations très 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 locales pour en fait finalement début juillet on s'est dit ben en fait on n'arrive pas à mobiliser et à refaire encore quelque chose de très visuel et de très médiatique possible. Donc la FSU et le PC 41 ont décidé d'écrire une lettre ouverte signée par 160 personnalités engagés et politiques, que l'on a adressé donc au préfet, au rectorat, qui ont balayé d'un revers de main la lettre, qui n'en ont évidemment pas tenu compte. À la suite de cette lettre, l'Académie Saint-Louis a réagi en faisant une lettre de soutien. Et cette lettre de soutien a été signée par 220 personnes. Et sur ces 220 personnes, on s'est rendu compte que beaucoup étaient des entrepreneurs. Et on s'est dit, ben voilà, puisque a priori l'Académie Saint-Louis ne fait pas de contestation, n'oppose, n'a pas d'opposition, comment en fait ce terrain s'incruste en Sologne? C'est un pays quand même, une terre qui est pas forcément, qui est vide un peu, hein, comme du côté de l'Allier, on a l'impression qu'il y a pas grand chose, hormis énormément de propriétés d'ultra riches. Donc on s'est dit, les ultra riches, en fait, ils ont pas tous 15 000 gamins et ils vont pas tous inscrire leurs gamins à l'Académie Saint-Louis. Donc, comment ce terrain peut s'incruster, on va dire, en Sologne? Alors qu'en fait, pour les autres, c'est très, très difficile. Très, très difficile. Et donc, du coup, à partir de cette lettre qui a recueilli à peu près 220 signatures, on a enquêté, on a cherché, on a listé. Et on a établi finalement une sorte de cartographie qu'on a dessinée ici, que vous pouvez voir si ça vous intéresse, ou sur lequel on a pu distinguer en fait l'origine générale en fait des soutiens de ce terrain ici. Et il s'agit en réalité de la bourgeoisie locale, vraiment de la bourgeoisie locale, c'est-à-dire des gens qui sont domiciliés, on va dire, en Sologne, qui ont des entreprises sur Tours, hein, qui ont des entreprises un petit peu en Sologne, mais dont tous les sièges sociaux sont ici à Paris. Ce sont essentiellement des cabinets de conseil, des cabinets immobiliers, etc., etc.
C'est quelque chose qui a l'air d'être un peu bien vu, comme un centre un peu chic, alors qu'en fait, la réalité du projet derrière est pas très compris. Merci beaucoup, Catherine. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup plus de temps, mais on essaiera. Évidemment, on pourra toujours poursuivre les discussions un peu plus tard. Je me tourne vers toi maintenant, Elsa, parce que, alors, toi, tu es journaliste indépendante, tu fais partie du collectif Hors Cadre, auquel appartient également Rosane Le Carboulec, qui était présente sur la première table ronde. Toi, tu as bossé sur un sujet qui est un espèce de camp colo d'entraînement un peu militaire, et vous avez votre enquête a été d'un grand impact. Je vais pas le dire à ta place, je te laisse nous raconter.
Ben justement, alors j'allais dire, après l'école, les colonies de vacances, et après les chrétiens de gauche et les juifs, la question, la première cible du catholicisme radical et d'Emmanuel, et de Pierre-Édouard Sterrin, pardon, ce sont les musulmans. Et donc c'est pour ça que je suis là. Et la deuxième chose, en effet, c'est pour montrer que bah, parfois le journalisme sert à quelque chose. C'est vraiment appréciable, parce que c'est pas souvent. Et du coup, je suis donc journaliste. Et en 2015, le 14 juillet, je lis dans Le Parisien 93 un article qui s'intitule, entre guillemets, « Si j'entends wesh, c'est 15 pompes ». Et suit un article sur la colonie de vacances « Laissez-les servir », qui est une colonie de vacances qui est fondée par un Indien du Madagascar qui pense avoir réussi sa vie grâce à l'armée et à l'armée coloniale, et qui, une fois retraité, décide donc de redonner cette chance aux jeunes de là où il habite désormais, à savoir dans 93, et donc de lancer cette association, cette colonie de vacances qui s'appelle Laissez-les servir. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, qu'est-ce que ça vient foutre dans le 93, cette histoire? Donc je fouille, etc., et je tombe sur un magnifique reportage que je vous incite tous à aller voir sur W9, où on voit ces jeunes racisés chanter le matin « C'est nous les Africains qui revenons de loin », faire le lever de drapeau avec les Marseillaises, faire des travaux d'intérêt général en lavant des cimetières. Et voilà, en gros, donc ce reportage de W9 montre ça, donc je suis un peu surprise. Je fouille donc un petit peu plus en profondeur, et là, je me rends compte que cette colonie de vacances, elle a sollicité des dons à la Nuit du Bien Commun, et que la personne qui fait l'interface entre le directeur de la colo et La Nuit du Bien Commun, c'est un monsieur qui s'appelle Bertrand Chevalier de Chantepie, qui se trouve être le dirigeant d'une association qui anime des camps masculinistes. Et donc, voilà, on arrive. Donc, bon, je me dis, il y a quelque chose à faire, et je fais une première enquête, donc il y a de ça 5 ans au moins, dans Médiacité Lyon, où je raconte toute cette histoire. Et je me rends compte aussi, en cliquant sur leur page Facebook, on voit une brochette de jeunes en treillis sur une montagne. C'est très beau, c'est très lyrique, etc. Et quand on clique, vous savez, sur la couverture, en fait, on voit la photo en plus grand. Et là, on voit qu'en face, il y a un abbé en robe face à eux. Et donc, et cette colonie de vacances, il se trouve qu'elle perçoit des fonds publics, et pas qu'un peu, des très gros fonds publics, à la fois de la région Île-de-France, mais aussi de la mairie de Rieux-la-Pape à l'époque. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, je fais cette première enquête, ça, j'en fais un deuxième papier dans l'UMA sur la même question. Ça fait un peu de bruit, mais rien ne se passe. Bon, cinq ans plus tard, nous sommes lauréates de cet appel à projet, et je me dis, tiens, je vais voir ce que devient cette petite association que j'avais enquêtée à l'époque. Et là, je me rends compte pourquoi on a fait cette enquête, parce qu'on a trouvé. Alors, il y a une congrégation qui s'appelle les Missionnaires de la Miséricorde Divine, qui a été créée à Toulon par Monseigneur Ray et un autre prêtre, et dont l'objectif assumé est d'évangéliser les musulmans. Et on se rend compte que cette congrégation, eh bien, elle fait l'aumônerie de la colonie de vacances et elle anime des messes en latin au sein de cette colonie de vacances de Môme, je le répète, de Pierrefitte. Du coup, bon, on se dit quand même, ça c'est quand même quelque chose. Et ils font une lettre sur leur blog où ils expliquent comment ils ont suscité des conversions, comment ils ont suscité des baptêmes auprès de leur public. Bon, ça j'y crois à moitié, mais quand même, on voit que c'est vraiment ça leur objectif. L'objectif de cette congrégation, c'est d'évangéliser les musulmans. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit que cette création d'un mec un peu zozo dans le 93, eh bien tout de suite, elle a attiré l'attention de nos mecs d'extrême droite catholique qui viennent et qui lui donnent les moyens de se développer en les finançant, et puis aussi qui font pression au sein même du conseil régional d'Île-de-France de Valérie Pécresse pour les financer. Il faut savoir que cette petite association qui avait 3 clampins qui venaient assister à leur colo, ils avaient 45 000 euros de la région chaque année, de quoi salarier 2 personnes, alors qu'on a vu tout à l'heure avec ma collègue Elsa que les associations avaient de moins en moins d'argent. Donc voilà, donc nous voilà à faire l'enquête, à regarder le Facebook, à stalker le truc, etc. Et puis on commence à envoyer des mails un peu partout pour dire, mais par exemple la CAF, elle leur file 30 000 euros par an. Et donc on demande à la CAF, mais regardez l'article qu'on a fait il y a 5 ans, comment ça se fait que la CAF continue de financer cette association malgré nos informations? On continue. Et puis un jour, il y a une source qui nous dit, écoutez, il se passe quelque... En juillet, écoutez, je peux rien vous dire, mais il se passe des choses. Il y a des agissements. Bon, donc on se pointe à la colonie de vacances et là, on se rend compte qu'en fait, il y a eu une inspection de l'État de la colonie de vacances, que l'État a trouvé sur place des livrets de la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine, les moines, les prêtres habillés en tenue et tout ça, qui dorment dans le camp avec les jeunes alors qu'ils ne sont pas déclarés, etc., etc. Première chose, et là, alignement des planètes et miracle certainement divin, la mère d'un des gosses de la colo porte plainte contre le capitaine Abdoul Hussein pour violence. Voilà. Et donc, c'est rare que ça se passe comme ça, mais il faut le dire. En gros, c'est grâce au journalisme. Et pourquoi? Parce que le mec de la CAF, à qui on avait demandé des comptes, a rappelé son pote le préfet. Son pote le préfet a appelé le préfet des Yvelines. Le prédécesseur des Yvelines a fait faire un contrôle. Et en même temps, il y a la mère qui a porté plainte. Et du coup, depuis, la colonie de vacances est fermée. Valérie Pécresse a supprimé en attendant les enquêtes, les 45 000 euros de subvention qu'elle leur filait. Et dernière chose, c'est la chose qui reste quand même, qui est problématique, c'est que Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis, continue de laisser ce lieu à disposition de, enfin, le lieu à disposition de la colonie de vacances, donc à Pierrefitte. Voilà. Et du coup, ce que je voulais dire pour finir, c'est que là, c'est un exemple un peu marrant où on a eu un vrai impact, mais on a eu aussi beaucoup de chance, mais que c'est toujours une fine dialectique entre les journalistes et la mobilisation citoyenne. Parce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on s'est remis sur cette enquête, c'est parce qu'on a été contacté par un conseiller municipal de gauche de la mairie de Saint-Denis pour se remettre à enquêter là-dessus. Et donc, on espère que la mobilisation va continuer et qu'on invite fortement Mathieu Hanotin à cesser de mettre ce local à disposition de cette colonie de vacances. Mais bon, peut-être faut-il attendre la fin des inspections. Voilà, visiblement, nos articles ne suffisent pas.
Non, mais bravo, bravo Elsa Sabado. Membre du collectif de journalistes hors cadre. Et on a très envie que tu publies encore et encore et encore des enquêtes, parce que visiblement, quand tu t'y mets, t'arrives à faire fermer des choses. Donc, bravo.
C'était petit, hein.
Cette deuxième table ronde touche à sa fin. J'aurais aimé vous poser tellement plus de questions, mais promis, on continue après ces tables rondes. Un grand merci à Yola, à Nicolas.
Cette enquête, elle a été faite avec Simon Mauvieux, pardon.
Hommage à Simon Mauvieux, bravo à lui. Merci à Vincent pour son texte, à Marion pour la lecture. Merci à Marielle, à Chloé, à Catherine, Lydie et Stéphanie, et ainsi qu'à toi, Elsa.